RFI midi et demi à Bamako, 15h30 à Moroni. Et je vous laisse en compagnie de Nemo Ampis pour Afrique Midi. Bonjour Nemo.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Après 17 mois d'attente, les Gabonais vivent leur premier week-end sans couvre-feu, une mesure imposée par les militaires à l'origine du coup d'État fin août 2023. Vous entendrez la joie des noctambules dans les rues de Libreville. Au Mali, la maison de la presse continue de soutenir pleinement Djoliba TV. La chaîne avait été coupée le 26 novembre dernier. Depuis, elle a vu sa sanction allégée, sa licence a été rétablie. Mais elle est toujours sous le coup d'une suspension de 6 mois. Il y a 50 ans, le 22 décembre 1974, avait lieu le référendum pour l'indépendance des Comores et depuis un demi-siècle, l'archipel continue de revendiquer la comorianité de Mayotte restée française. Et puis les sports, fin de la deuxième journée des matchs allés en vue des qualifications du CHAN 2025, 8 rencontres au programme. Un retour à la vie d'avant. Au Gabon, c'est le premier week-end de sans couvre-feu, une mesure imposée il y a 17 mois par les militaires qui ont renversé le régime d'Ali Bongo le 30 août 2023. Les horaires ont certes été réaménagés à plusieurs reprises pour permettre à l'économie de la nuit de ne pas tomber en faillite. Mais jusqu'à la semaine dernière, toutes les villes étaient désertes, passé minuit, heure du début du couvre-feu. L'armée a même organisé il y a quelques jours des rafles contre ceux qui violaient la loi. Tout homme arrêté a eu le crâne rasé, provoquant un mécontentement général. Du coup, le gouvernement a décidé de lever ce couvre-feu et les Gabonais en ont profité. À Libreville, le reportage d'Yves Laurent Goma.
Derrière l'Assemblée nationale, coin par excellence pour boire et manger moins cher, notamment le poisson braisé. La nuit est déjà très avancée, mais tous les box affichent complet.
C'est la joie pour nous, on boit comme vous voyez là, nous sommes libres maintenant.
Je me sentais pas enchaîné, mais ça permet un peu de s'épargner.
On vous met la sauce sur le poisson, bien, hein? On met quoi?
Derrière son barbecue, Roger, alias Roger Poisson, ne chante pas.
Ah, il y avait vraiment souffert pendant le couvre-feu. On rentrait tôt et bon, ça ne donnait pas. On prie que, comme on a retiré le couvre-feu, on aurait quand même la grâce.
Au quartier, lui, connu pour ses bars et restaurants, ses noctambules se délectent la musique d'un orchestre dans un club feutré.
Les Gabonais étaient fatigués de ne plus pouvoir rester tard le soir et profiter de la nuit, de sa douceur, de son charme. On réapprend à vivre, enfin.
Le patron qui préfère l'anonymat espère un nouveau départ pour les affaires.
C'est une bonne affaire pour l'instant parce que nous perdions à l'époque environ 45% de notre chiffre d'affaires chaque jour.
Le couvre-feu est certes levé, les Libreville-lois demandent cependant aux militaires au pouvoir de maintenir la pression contre les braqueurs. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Les divergences s'accentuent entre Kinshasa et Kigali, une semaine après l'échec de la tripartite de Luanda, censée poser les bases d'un accord de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, en Conseil des ministres, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois rappelé son refus catégorique de négociations directes avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, alors que c'est une condition. Pour Kigali. Pour l'heure, c'est donc toujours l'impasse. À Kinshasa, Patient Ligodi.
Le M23, par la voix de son chef politique, Bertrand Bisimwa, persiste à demander un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Le mouvement affirme vouloir aborder les causes profondes du conflit, rejetant même catégoriquement toute intégration de ses revendications dans le cadre du processus de Nairobi qui rassemble divers groupes armés locaux et étrangers opérant en RDC. Pour le M23, un tel forum diluerait ses revendications spécifiques. Bertrand Bisimwa va plus loin, il souligne, je cite, ce n'est pas aux groupes armés de gérer ces questions, mais au gouvernement, et refuse également l'éventualité de négociations qui se limiterait à des arrangements sur des postes ou des grades. Kinshasa, de son côté, maintient une position ferme. Pas question d'accepter un dialogue direct avec le groupe rebelle. Il n'est qu'un instrument au service du Rwanda. De son côté, la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, exige la démobilisation immédiate et définitive de tous les membres de groupes armés et appelle à la reprise des pourparlers dans le cadre du sommet tripartite de Luanda entre la RDC, le Rwanda et les facilitateurs angolais. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Voilà un an en Côte d'Ivoire que Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI-RDA et pour célébrer cet anniversaire, le successeur d'Henri Conan-Bédié a animé hier après-midi un meeting à Abouasso, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Tidjane Thiam qui a pu communier avec ses partisans. Abdoulaziz Diallo y a assisté pour RFI.
Vêtus de t-shirts aux couleurs du parti, le vert et blanc, les militants et sympathisants du PDCI-RDA ont pris massivement d'assaut la place Elingan d'Abouasso. Objectif, réaffirmer leur soutien à leur leader, Tidjane Thiam. Pour ce militant enthousiaste, l'ancien patron du Crédit Suisse est l'homme de la situation.
Il n'y a pas de doute, c'est le profit qu'il faut. Nous, au PDCI, notre choix, c'est président Tidjane Thiam. Il est notre choix pour pouvoir terrasser le Babab Alassane Ouattara en 2025. Thiam le fera.
Quand Tidjane Thiam fait son entrée, la foule exulte. Dans son discours, il expose sa vision de la Côte d'Ivoire, articulée autour de 5 priorités, avec un accent particulier sur l'éducation et la santé. L'ancien ministre du Plan n'a pas hésité à adresser des critiques aux autorités actuelles.
Nous sommes un pays pauvre et pourtant l'attention aux plus démunis n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. On en veut pour preuve toutes les opérations de démolition des habitations, de déguerpissement sans mesure d'accompagnement social et sans humanisme. L'inflation est intenable. Les prix des denrées alimentaires augmentent.
Concernant la présidentielle de 2025, Tidjane Thiam a plaidé pour une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Une mesure qu'il estime essentielle pour garantir la transparence du scrutin. Abdelaziz Diallo, Abouasso. RFI.
Tidjane Thiam et le PDCI qui par ailleurs exigent une nouvelle révision de la liste électorale en 2025 au nom de la démocratie et d'une élection crédible et transparente. Fin de citation. RFI, midi 37 à Bamako, au Mali. La chaîne Djoliba TV, coupée depuis le 26 novembre dernier, a vu sa sanction révisée à la baisse cette semaine. Sa licence est rétablie, mais elle reste suspendue pour 6 mois. Une sanction qui fait suite à la diffusion d'un débat au cours duquel la véracité supposée d'un coup d'État déjoué au Burkina voisin avait été mise en doute. Bonjour David Baché.
Bonjour Nemo.
Allègement, oui, mais qui ne suffit ni à la chaîne ni à la maison de la presse qui, tout en restant mobilisée, favorise la stratégie du dialogue.
Nous avons décidé de jouer l'apaisement compte tenu de la complexité de la situation et de la fragilité du pays, décrypte un dirigeant de la maison de la presse, qui précise que la décision a été prise à l'unanimité. Lors de cette réunion exceptionnelle hier, la totalité des organisations de journalistes du Mali était représentée, la direction de Djoliba TV également. Certains envisageaient pourtant une mobilisation plus forte. Au début de l'affaire, le mois dernier, la maison de la presse avait immédiatement menacé d'appeler tous les médias du pays à rediffuser l'émission qui avait valu à Djoliba TV d'être sanctionnée avant d'entamer de discrètes discussions avec la Haute Autorité de la Communication. Les représentants des journalistes du pays vont debout contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte au pluralisme des médias et à la liberté d'expression, savent que ce dossier éminemment politique dépasse le strict cadre de la Hague et jugent que poursuivre les négociations avec l'autorité de régulation sera plus efficace, du moins à ce stade, que d'entrer dans un mouvement de protestation plus musclé.
Et c'est une stratégie, David, qui a déjà permis à Djoliba TV de récupérer sa licence.
Absolument, même si le maintien d'une suspension de 6 mois demeure inacceptable pour la chaîne comme pour l'ensemble de la profession, qui reste mobilisée et n'exclut pas d'autres actions si les négociations ne permettaient pas d'obtenir le rétablissement de Djoliba TV. Quant à l'auteur des propos qui ont valu à la chaîne d'être sanctionné, la figure politico-médiatique Issa Kaounjim, il est en prison depuis plus d'un mois et sera jugé demain pour notamment offense commise publiquement envers un chef d'État étranger.
Explication David Baché. Au Burkina Faso, justement, l'inquiétude des femmes et des familles de militaires. Il y a un peu plus d'un mois, un collectif de femmes envoyait une lettre à la Fédération des associations islamiques du pays. Elles sont sans nouvelles de leur mari qui reste introuvable et dont les noms ne figurent sur aucun registre. Paul Lorgerie a pu s'entretenir pour RFI avec certaines d'entre elles qui ont donné leur accord pour diffuser leur appel à l'aide tout en ayant requis l'anonymat.
C'est un cri du cœur et un appel au secours face à une situation insoutenable et éprouvante. Dans une missive qu'elles auraient préféré garder secrète, des femmes de militaires racontent les conditions pénibles dans lesquelles elles vivent depuis la disparition de leur mari, la plupart n'ayant plus de nouvelles de leur part depuis août dernier. On ne sait pas où ils sont, nous avons peur qu'ils subissent des traitements qui ne devraient plus avoir lieu en 2024, se risque l'une d'entre elles. La lettre revient notamment sur le décès de deux femmes qui ont perdu la vie en accouchant sous le poids de l'incertitude. Laissées pour compte, elles témoignent de la fatigue fatigue psychologique et physique qu'elles subissent, des résultats scolaires de leurs enfants en baisse et des différents recours formulés au gouvernement sans succès. Nous ne voulons surtout pas entrer dans un bras de fer avec les autorités, insiste pour autant la femme au bout du fil, allant dans le sens d'un paragraphe de la lettre qui reconnaît que le président du Burkina Faso est l'unique autorité compétente pour prendre des décisions à ce sujet.
Paul Lorgerie, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 22 décembre 1974 avait lieu le référendum pour l'indépendance des Comores. À l'époque, les résultats avaient été décomptés île par île, contrairement à ce qui était prévu. Et parmi les quatre, Mayotte avait opté pour rester française. Et en un demi-siècle, l'archipel des Comores a sans cesse revendiqué la comorianité de Mayotte. Le débat sur son appartenance suscite depuis un vif intérêt, une question de souveraineté, d'histoire et d'identité. À Moroni, Abdallah Zembaba.
À proximité de la place de l'indépendance à Moroni, un panneau affiche clairement « Mayotte est comorienne et le restera à jamais ». Pour Houmed Msédié, conseiller politique du président Azali Assoumani, les Comores ne vont jamais transiger sur cette revendication.
Mayotte est toujours comorienne en nous fondant sur trois principes. Le premier, c'est que nous sommes un seul peuple, c'est une seule nation. Deuxièmement, par respect aux accords de juin 1973 qui préconiser l'accession des Comores dans son intégralité territoriale. Le troisième principe, c'est le principe qui émane du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, Mayotte est comorienne.
Maître Atiki Youssouf, membre du comité maoré qui milite pour le retour de Mayotte, affirme que l'île est comorienne en raison de son histoire et de sa culture commune et que cela constitue un fait intangible.
L'acte de naissance de notre jeune nation n'a jamais dit que les Comores sont composés de trois îles pour que l'on revendique une quatrième qui n'est pas à nous. Notre revendication est que l'indépendance de notre territoire soit achevée et que le gouvernement comorien puisse librement exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est une question d'histoire.
Pour tout Comorien, défendre Mayotte, c'est rappeler que les frontières et la politique ne peuvent effacer des siècles d'histoire commune, de liens familiaux et une identité culturelle qui résiste au temps et aux divisions coloniales. Abdallah Mzembaba Moroni.
Mayotte où s'est rendu cette semaine Emmanuel Macron après le passage du cyclone Chido. Le président français était ensuite en tournée de deux jours dans la Corne de l'Afrique après Djibouti. Il s'est rendu en Éthiopie où il a déposé une gerbe au monument de la bataille d'Adwa qui signa la victoire de l'Éthiopie face à l'Italie en 1896. Emmanuel Macron s'est entretenu et a dîné avec le premier ministre Abiy Ahmed au Palais National. Pierre Firsion était à Addis Abeba.
Après avoir participé financièrement à la rénovation du Palais National et des églises de la Libella, Paris va appuyer à hauteur de 100 millions d'euros le programme de réforme lancé par Addis Abeba pour libéraliser son économie. Le président français s'est également engagé à accorder un prêt exceptionnel de 80 millions d'euros pour la modernisation du réseau électrique éthiopien. À travers cette visite, Emmanuel Macron a voulu marquer le retour de la France en Éthiopie. Deux ans après la fin de la guerre au Tigré, une partie de l'aide française avait été suspendue pendant cette guerre. Désormais, elle a repris. C'est vrai notamment pour l'aide en matière de défense et de sécurité. Abiy Ahmed s'est dit reconnaissant envers la France, qualifiant Emmanuel Macron de frère, d'ami, un ami qui aborde aussi parfois les sujets qui fâchent. L'esprit de dialogue qui a prévalu dans la résolution du conflit au Tigré inspirera, je le sais, la résolution d'autres situations difficiles, a lancé le président français, référence directe au conflit en cours dans les régions Oromia et Amhara. Emmanuel Macron a également évoqué l'accord de Pretoria qui a mis un terme à la guerre au Tigré. La France soutient sa mise en œuvre, a-t-il expliqué, en développant des projets dans des régions affectées par le conflit. Un soutien est notamment apporté aux populations les plus touchées, comme les femmes victimes de violences sexuelles.
Pierre Firsion, envoyé spécial de Radio France Internationale à Addis Abeba. Et puis les sports, ce dimanche, suite et fin du deuxième et dernier tour aller des éliminatoires du CHAN 2025. Cette CAN réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Huit matchs au programme, le Sénégal tenant du titre face au Libéria, Centrafrique-Cameroun délocalisé à Abidjan ou encore Togo-Niger, Ghana-Nigeria et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les étalons prêts à réaliser un bon résultat face aux éléphants qui leur avaient barré la route lors du dernier CHAN, même si la préparation des Burkinabés n'a pas été optimale. RFI Abidjan, Moulamine Sissavane.
Arrivée jeudi soir à Abidjan, l'équipe nationale A' de Burkina Faso a effectué un stage au Niger où elle s'est mesurée à deux reprises au MENA local. Une victoire et un nul pour les étalons au cours d'un stage pas évident. Le coach Issa Balboné.
Avec le championnat qui se jouait chaque trois jours, on ne pouvait pas avoir les joueurs pour la préparation. Nous avons eu peut-être deux jours, trois jours dans la semaine avant de partir au Niger. faire deux matchs et revenir à Abidjan ici.
Abidjan à l'aller, puis Bamako au retour en raison du stade non homologué au Burkina Faso, mais Issa Balboné n'a pas l'impression de jouer deux fois à l'extérieur.
Au football moderne, il n'y a pas de match à l'extérieur. Tous les matchs sont des matchs très importants. Ça fait près de 5 ans que nous jouons dehors. Donc nous sommes habitués maintenant et je pense que ça ne va rien changer au football burkinabé.
L'absence des Burkinabés au dernier Chan après une défaite contre les Ivoiriens, qui les avaient ainsi privés de la compétition, ne change rien non plus pour le coach.
Nous n'avons pas parlé de l'élimination du Burkina face à la Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est le présent qui nous intéresse. Aujourd'hui, le football ivoirien atteint un certain niveau. Mais nous allons tout faire pour battre cette équipe de Côte d'Ivoire.
Pour réaliser ce résultat, Issa Balboné, qui a vécu 15 années à Abidjan, compte sur ses compatriotes qu'il sait ici nombreux. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, coup d'envoi 16h, temps universel. Pour l'heure, il est 12h45 TU.
Afrique Midi, Nemo en piste.
Et dans cette deuxième partie d'Afrique Midi, la suite des rencontres avec ceux qui ont activement participé à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame. Ce sera dans la chronique 100% création. Discussion également avec l'écrivaine Anouk Chavelzon à l'occasion de la sortie de son premier roman. Elle est au micro de Tirtankar Chanda. Mais tout de suite, l'Afrique en marche.
L'Afrique en marche.
Nouvel épisode de l'Afrique en marche ce dimanche à l'approche de Noël. C'est l'occasion de prendre le chemin de Dakar et d'un fabricant de jouets spécifiquement sénégalais et africains chez Africa Kid. On retrouve toute une gamme de jeux ludiques mais aussi éducatifs pour les enfants et les écoles du pays. L'Afrique en marche, Frédéric Gara.
Alors que l'on chante et que l'on célèbre Noël au Sénégal, comme ici, chez les moines de Cœur Moussa, pendant ce temps-là, dans les ateliers de Wakam à Dakar, eh bien on s'active. On y coupe, on y ponce, on y vernit les jouets en bois d'Africa Kid. Il s'agit d'une marque de jeux ludiques et éducatifs que le franco-suisse Patrick Jacquier a conçu depuis une dizaine d'années à Dakar.
On a au moins une quinzaine de modèles de memory. C'est ce jeu qui a comme objectif de faire des paires entre deux pièces qui ont un lien évident et qui permettent d'associer le chiffre avec l'écriture du chiffre, le chiffre dans une langue avec une autre langue, un drapeau avec un pays, des choses comme ça. Donc, la memory est quelque chose de très, très puissant comme jeu éducatif. Donc les éléments importants, en fait, c'est la fabrication 100% Dakar. Tous les produits sont naturels. La plupart de nos plateaux sont recouverts de tenkessé, qui est une huile végétale qui vient de Casamance. Donc on essaye vraiment d'assumer le fait d'être local. Et puis le fait que ça vient de la tradition aussi sénégalaise, Wolof, depuis quelques siècles.
Patrick Jacquier a imaginé des jeux de mémoire, de calcul, de géographie en Wolof, en français, en sérère ou en langue bambara, des jeux auxquels ont souscrit plusieurs établissements scolaires de Dakar, comme l'école franco-sénégalaise dirigée par Cécile Chauvel.
Moi, j'étais en recherche de quelqu'un qui serait en capacité de me fabriquer notamment du matériel de manipulation mathématique. L'approche qu'avait Patrick, notamment avec le bois, le fait qu'il fasse travailler des femmes, que ce soit fait localement, ça, c'est aussi des critères qui correspondent aux souhaits en fait en termes de développement durable de l'établissement. Et puis, il a accepté en fait derrière de faire des prototypes par rapport à des modèles que je souhaitais pouvoir faire fabriquer. Et on a pu vraiment travailler ensemble sur l'élaboration des modèles. Donc, voilà. Ça a démarré comme ça. Puis l'année dernière, donc on a fait une grosse commande de matériel de numération. Et c'est un matériel qu'on n'avait pas forcément de manière assez présente dans l'école pour développer la manipulation. Et le fait de pouvoir avoir accès à du matériel en bois, ce qui change du matériel plastique qu'on peut commander assez facilement, et que ce soit fait localement, c'est vrai qu'au niveau développement durable, c'était un point qui nous intéressait particulièrement. Donc on a été équipés comme ça, et c'est vrai qu'on en est très contents.
Et ils sont d'autant plus contents, les enseignants et les enfants, que la finition des jeux est particulièrement soignée. Pour cela, Africa Kid a fait appel au talent de menuisier dakarois expérimenté comme Oumar Diallo. Il a son atelier à Wakam, Cité Avion.
Si tu fais les menuiseries, ça demande de la précision, de la finition. Et donc, d'après ce que Patrick veut aussi, ça demande beaucoup de précision parce que c'est du bois qu'on fabrique en millimètres. Il y a différents jeux, il y a le yoté, il y en a tellement. Parce que lui, vraiment, il est très inspiré, quoi. Parce que ça développe l'esprit des enfants. Parce que ça demande de la réflexion, quoi. Voilà.
Et pour développer l'esprit des jeunes et de l'ensemble des Sénégalais attachés à leur culture, Patrick Jacquier a remis au goût du jour un jeu typique, le yoté, un jeu de plateau qui rappelle le jeu de go ou le jeu de dames. Patrick Jacquier.
Donc c'est d'abord un jeu de positionnement. Et après, c'est une stratégie de prise qui est intéressante et qui a quelques spécificités. Mais ce support au niveau de l'oralité, bien connue en Afrique, est importante par rapport à l'histoire du yoté. On prend les pions de l'adversaire. Et donc, tout simplement, c'est comme un jeu de dames. Voilà, c'est tout.
Jouer en apprenant ou bien s'éduquer en s'amusant, les jeux d'Africa Kid ont encore le temps d'arriver d'ici mardi au pied du sapin ou du baobab de Noël.
De Noël des moines de l'abbaye de Cœur Moussa au Sénégal pour accompagner cette dernière chronique de l'année 2024. Tous les épisodes de l'Afrique en marche, signés Frédéric Gara, sont à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Afrique Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, temps universel. Un rapide tour de l'actualité internationale. Vladimir Poutine promet encore plus de destruction à l'Ukraine après une attaque de drone en Russie. Hier, quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans notre pays, a déclaré. Le président russe, le nouveau dirigeant syrien, promet de son côté que son pays n'exercera plus d'ingérence négative au Liban. Au Mozambique, les autorités dévoilent un nouveau bilan suite au passage du cyclone Chido, au moins 94 morts pour l'heure. Et puis, bilan renouvelé également dans le sud du Nigeria, où un mouvement de foule a fait au moins 22 morts selon des informations transmises par la police. RFI 13h51 ici à Paris, Diaty Diallo, Raphaël Red ou encore Anouk Chavelzon. Toutes font partie de cette nouvelle génération d'écrivaines en train de renouveler la littérature française en y faisant entrer de nouvelles thématiques et de nouveaux personnages. C'est à cette dernière, Anouk Chavelzon, que l'on s'intéresse aujourd'hui dans Chemin d'écriture et à son premier roman, Le Bleu n'abîme pas, qui raconte les malheurs de Luna, jeune fille métisse confrontée au fantasme d'exotisme de ses concitoyens. Le voile bleu de l'oubli lui permettra-t-il de conjurer son mal-être et d'être réduite à sa différence? Telle est la question. Elle est au micro de Tirtankar Chanda.
Le bleu n'abîme pas, voici un titre de roman peu banal. Anouk, vous pourriez nous expliquer d'où il vient ce titre ?
J'ai choisi ce titre d'abord parce que au cours de l'écriture du roman, j'ai lu Beloved de Toni Morrison, personnage de Baby Suggs, qui à un moment dit que s'il y a bien deux choses qui sont inoffensives dans ce monde, c'est le bleu et le jaune. Et moi, ça me parlait beaucoup dans ce roman où je tisse la thématique des couleurs. Et l'un des premiers textes que j'ai écrit, c'est l'ouverture du roman, qui commence avec beaucoup de bleu. Et ça faisait sens pour moi de donner à cette couleur une place également dans le titre. Le bleu, dans le roman, il sert à recouvrir toutes les émotions néfastes qui ressortent pour le personnage. Et le personnage principal du roman, au début du roman, vit une agression qui fait ressurgir et remonter plein de questions concernant ses origines, puisque la question première posée par l'agresseur, c'est « tu viens d'où ?». Le bleu, ça représente une forme de déni. Et le personnage, progressivement, se rend compte aussi qu'il faut laisser émerger d'autres couleurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de couleurs qui sont décrites et que le rouge est là, symboliquement aussi, pour représenter une autre force et plus violente, mais qui a aussi des aspects de plus positifs, une manière de guérir.
Que raconte votre roman ?
Pour moi, c'est l'histoire d'un personnage qui se réapproprie son histoire. À travers trois moments clés, il y a une première partie qui est fragmentée mais avec deux lignes qui se répondent en permanence. Il y a la scène de l'agression et des souvenirs qui sont suscités par ce moment de l'agression, et donc l'agression est morcelée. La deuxième partie, c'est une partie qui est plus linéaire, où on suit un personnage sur une journée. Dans la troisième partie, on retrouve une forme de narration fragmentaire, celle d'un entretien que le personnage retrouve de son grand-père maternel nigérien, qui parle à la télévision, un rêve que le personnage fait de ce grand-père. Ces trois moments qui sont progressivement apparus comme les trois moments que j'avais envie d'écrire pour ce personnage. C'est un roman que je voulais très visuel, au sens où il y a beaucoup d'images, et l'image du tissage ou de l'entrelacement qui fait référence aussi à ces lignes mêlées du métissage.
Ce métissage qu'incarne votre héroïne Luna. Luna, c'est vous, non ?
C'est un alter ego. Ça me tenait à cœur que ce soit pas seulement moi. Pour moi, c'était quand même important de m'extraire de détails familiaux pour faire personnage. Moi, ce que je voulais, c'était prendre des libertés par rapport à moi, ce que j'ai vécu, pour faire une histoire. C'est pour ça que c'est écrit à la seconde personne du singulier. Cette seconde personne du singulier est apparue comme une manière de créer une voix singulière.
Il n'y a pas beaucoup de personnages de métis dans le corpus littéraire français.
En tant qu'adolescente et jeune femme, j'ai eu du mal en fait à m'identifier à des personnages de littérature. Je me suis identifiée à des émotions, je me suis identifiée à des situations, mais rarement à la réalité physique des personnages que je rencontrais au cours de mes lectures. Et c'était une manière de remédier à ça en créant ce roman où on représente un corps métissé, racisé, qui vit des agressions verbales et physiques, mais qui est aussi fière, en fait, d'où elle vient.
Anouk Chavelzon avec Tirtan Karchanda pour Chemin d'écriture. Et puis 100% création continue ce dimanche de partir à la rencontre de ceux qui ont participé à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Compagnons, artisans d'art ou designers. Aujourd'hui, Régis Mathieu, lustrier, en charge de la rénovation des lustres donc. Il est maître artisan spécialisé dans la création, réédition et la restauration de luminaires. En tant qu'entrepreneur et créateur, Régis Mathieu a fait de son atelier une référence en matière de lustres haut de gamme. Sa vision artistique et sa quête d'excellence lui ont permis de collaborer avec des prestigieux monuments historiques comme celui donc de Notre-Dame de Paris. 100% création, c'est présenté par Maria Afonso.
Le mot lustrier, quand je le dis pour la première fois, les gens me regardent bizarre en disant « c'est quoi ce métier ?» alors que tout le monde sait ce que c'est un lustre.
Régis Mathieu, lustrier.
Je laisse cours à mon côté artistique et je crée comme ça un pendant à ma collection de lustres qui m'est personnel dans le choix et dans l'œil, si vous voulez, mais aussi qui raconte une histoire.
Régis Mathieu est originaire de Marseille. Sa famille est dans les luminaires, haut de gamme, contemporain. Il suit des études en école de commerce et en même temps son apprentissage du métier dès l'âge de 20 ans. Après le décès de son père, sa mère reprend l'entreprise. À la fin de ses études de commerce, c'est à son tour. Il repositionne alors l'entreprise pour que le lustre soit un objet de luxe, à la croisée de l'artisanat et de l'esthétique contemporaine. L'engagement de Régis Mathieu est profond pour la sauvegarde du patrimoine, avec des projets publics comme celui de Notre-Dame de Paris.
Une fois qu'on avait tout nettoyé, il restait des traces de jaune, des traces de marron, de noir. C'était assez élégant. Pourquoi pas garder les lustres comme ça ? C'est la patine du temps. Donc on fait un essai, on restaure un lustre, on met des bougies, on l'emmène à la cathédrale, on fait un essai. Là, ça a duré 10 secondes. Waouh ! Le lustre, la cathédrale l'a rejeté. Il était vraiment pas beau. On s'est dit non, c'était pas une bonne idée. Donc je dis, un des lustres qui est le plus abîmé, si vous voulez, je le refais neuf, que l'on voit comment c'était quand ça avait été livré. On fait un lustre tout neuf, qu'on trouve quasiment clinquant à la lustrerie. Mais c'est ça, hein, c'était le travail de Viollet-le-Duc, c'est bruni, c'est brillant, il y a des parties qui sont volontairement clinquantes, et c'était le souhait de l'architecte. Et puis dessus, des feuilles qui sont plus mates pour créer des volumes. Et ce lustre, on l'emmène à la cathédrale, et alors ça nous a fait l'effet inverse. Là, on est resté une heure à le regarder, parce qu'on s'est dit, waouh, c'est... ça va vraiment bien, quoi, c'est ça.
La reconstruction de Notre-Dame de Paris n'aurait pas été possible sans les métiers d'art et leur savoir-faire. Et pour Régis Mathieu, c'est un chantier à part dans son parcours.
Là, on s'est aperçu que sans les métiers d'art, sans ces savoir-faire, ces corporations, on n'aurait peut-être pas été capable de reproduire Notre-Dame. Et il y aurait un parking aujourd'hui de 5 étages à la place de Notre-Dame. Et donc, merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Toute cette équipe merveilleuse qui travaille sur ce chantier. À la lustrerie, personne n'a soufflé pour faire quelque chose sur les lustres de Notre-Dame et c'était compliqué, mais tout était très 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 différent. Je pense même que dans les métiers d'art, il y aura avant et après Notre-Dame.
Retrouvez l'univers de Régis Mathieu sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et c'est avec Maria Afonso que se referme cette demi-heure d'Afrique Midi, 13h59 ici à Paris. Merci à Benoît Rébon, à la réalisation, à Karine Franck, à la rédaction en chef et à Cécile Perrière, attachée d'édition. Dans un instant sur RFI, le retour de l'actualité internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain,
Comment prévenir les risques liés au monde du travail? Comment faire reconnaître certaines maladies étant liées à l'activité professionnelle? Mardi, la consommation du sucre peut entraîner divers problèmes de santé comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Quels aliments privilégier ou éviter?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Amateur de hip-hop, de poésie et de second degré, cette émission est faite pour vous. Le rappeur français Hippo Kung Fu est dans BPM La Rencontre.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Non mais je comprends rien à la carte là.
Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI. Voilà.